Média.
Philippe Vandel.
La réindustrialisation de la France passe-t-elle par le digital? Comment nos usages en matière de télécommunication ont-ils évolué? Qu'est-ce que la souveraineté numérique? En quoi serait-elle une priorité? Encore des questions avec la pandémie de Covid. Quelles sont les modifications de nos usages numériques? Et la guerre en Ukraine marque-t-elle le début de la mondialisation? C'est pas fini. Plus concrètement, où en est la 5G dont on nous promettait monts et merveilles avant son arrivée? Ce sont parmi les sujets qui seront abordés lors du sommet digital mondial qui se tient à Paris à partir de ce soir, le DigiWorld Summit 2022. Il réunit des spécialistes du monde entier, de gros noms, sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Avec nous pour décortiquer ces questions savantes, mais qui nous concernent tous et toutes, son président, un grand patron, entrepreneur, expert du monde numérique depuis des années. Bonjour François Barraud.
Bonjour Philippe.
Vous êtes d'abord un scientifique, le bac à 16 ans, je fais votre CV dans la tech depuis 77, vous arrivez dans la Silicon Valley dès 98, vous avez créé de nombreuses sociétés, vous avez été le patron de l'américaine Lucent Technology, ce qui est très rare pour un Français. Vous avez été également le seul Français à diriger British Telecom à Londres de 2004 à 2009. Mais cette actu immédiate, vous êtes le président de LightDat DigiWorld Institute, j'espère que je prononce bien. Qu'est-ce que ce think tank, ça sert à penser?
Alors, on dit IDAT.
IDAT, merci.
Et on le rebaptise DigiWorld Institute parce qu'aux États-Unis, quand je suis arrivé en 2011, on m'a félicité parce que j'arrivais dans le dating. J'ai dit non, c'est IDAT. Et donc, on change le nom.
Ah oui, j'explique. Le dating, c'est les applications de rencontre.
Absolument.
To date, c'est avoir un rendez-vous.
Donc, on a switché ça, on appelle ça le DigiWorld Institute. Alors, c'est un institut qui a été créé en 77. C'est une vieille dame, hein, 45 ans. Dans le monde digital, c'est 3000 ans dans le monde moderne. On fait des livres, une soixantaine par an, on fait des conférences, une trentaine. On a une centaine de membres et on travaille beaucoup avec les organismes tels que régulation, communauté européenne. On les conseille dans un environnement bienveillant, non transactionnel pour le bien communautaire.
Alors le DigiWorld Summit démarre ce soir, c'est la 45e édition, c'est le plus ancien sommet tech et digital en Europe. Quels sont les objets, les objectifs de ce sommet?
Alors, au début, on parlait beaucoup d'infrastructures, mais aujourd'hui, le digital, du matin au soir, hein, je vois les temps d'utilisation des iPhones augmentent. Le digital a envahi notre vie, donc on va parler de métaverse, d'Internet du futur, on va parler de l'avenir des opérateurs télécoms hein, qui sont à mal en ce moment, on va parler de cybersécurité, de numérique responsable et durable, de mobilité connectée dans les territoires.
J'ai mal posé ma question. Les sujets, je les ai évoqués. À quoi sert le sommet? Qui sont les gens qui sont là? Et en quoi est-il important que tous ces gens viennent du monde entier pour se rencontrer? Quel est le but de ce sommet? Parce que ces sujets-là, ils les traitent à l'année, tous les uns et les autres.
Bien sûr, mais souvent, ces sujets sont traités dans un environnement transactionnel de business. Nous sommes une plateforme de réflexion, c'est un think tank. On décolle les signaux faibles, on les agrège et on réunit des gens qui parlent ensemble, surtout qui n'ont pas vocation à se rencontrer.
Par exemple,
on est l'anticlan, donc on a des universitaires, on a des grands patrons américains, on a des responsables de région qui sont là. Et on fait l'inverse de ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire qu'on réunit des gens qui ne se voient jamais. Donc ça provoque des dialogues et des débats, un peu comme chez vous d'ailleurs Philippe. C'est très agnostique.
Exactement. Il y a aussi le ministre qui vient.
Absolument, il fera l'ouverture, Jean-Noël Barraud, absolument.
Exactement.
Barraud-Hauté. Hein.
Oui, Barraud-Hauté, qui est le ministre de, j'ai oublié son titre exact.
Ministre d'État du digital et l'économie numérique.
Alors, je vais parler un tout petit peu concrètement. Cet événement qui est créé à l'origine pour les professionnels, est-ce qu'il concerne le grand public? Et si oui, de quelle manière?
Alors, le grand public peut le suivre en streaming ou sur Internet, mais on a choisi cette année une formule, on va beaucoup plus être dans le dialogue. On a eu des éditions du DigiWorld Summit avec 5000 personnes. Donc cette année, on a choisi la qualité et on va utiliser les moyens numériques justement pour faire bénéficier à tous des réflexions que l'on aura.
Alors quelque chose qui intéresse tout le monde ici, on a même fait un sujet, l'intitulé ce jour-là c'était « Mais où est passée la 5G ?» On nous promettait monts et merveilles, les camions allaient pouvoir se suivre à 50 cm de distance, et puis on n'a rien vu, les gens achetaient des téléphones à prix d'or, il y a des mâts d'émetteurs qui ont été plastiqués, il y a certaines villes qui ont imposé des moratoires, on ne sait pas pourquoi. À quoi ça sert? C'est un pétard mouillé la 5G parce que vous y croyez beaucoup. C'est pour ceci que je voulais commencer par cette question.
Oui, alors la 5G, ça a été un peu un pétard mouillé. On s'attendait, comme vous l'a dit Philippe, à des mots et merveilles. Mais finalement, pour le consommateur, ça ne change pas grand-chose.
Bah oui.
Déjà, avec la 4G, on a 300-400 mégas.
Ouais.
On peut suivre.
Oui, mais ça, on ne nous l'avait pas dit. On ne nous l'avait pas dit quand ils nous ont fait acheter des. Moi, je n'ai pas suivi parce que je sentais
l'embrouille. Il faut faire rêver le consommateur pour qu'il achète le dernier modèle de voilà. Smartphone.
Bref, ceux qui l'ont fait se sont fait avoir. Mais continue.
Pour reprendre une célèbre phrase de Steve Jobs, il y a l'évolution et la révolution. L'évolution, ça a été le 5G, donc plus de vitesse. La révolution, ça va être les fréquences millimétriques dans 2-3 ans, où là, on va avoir une vraie révolution, d'une part en termes de débit, mais surtout en termes de temps de latence. Hein, on va diviser par 100 le temps de latence.
La latence, c'est le temps qu'on met pour attendre. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand vous êtes en voiture et que vous freinez et que l'ABS se met à fonctionner, l'ABS freine, puis lâche les roues, puis freine, puis lâche les roues, puis freine, puis lâche les roues, ce qu'un être humain est incapable de faire à cette vitesse-là. C'est ça la latence.
Exactement. Il faut savoir que le réflexe humain, c'est à peu près 1/10 de seconde. Hein, c'est le temps de latence du départ du 100 mètres. Hein. Si on part à moins de 10 centièmes, eh bien on fait un faux départ. Il faut savoir aussi que l'information se propage dans le cerveau à 100 mètres par seconde. Si je touche mon iPhone, c'est à 60 mètres par seconde, alors que là, Philippe, je vois à 300 000 km par seconde et nos auditeurs nous écoutent à 340 mètres par seconde.
Nos auditeurs se disent, c'est super ce qu'ils racontent, mais quel rapport avec la 5G, quel rapport avec mon téléphone? En quoi le fait que ce temps de latence change va modifier quelque chose pour nous-mêmes usagers?
Alors, pour nous, pas grand-chose. C'est comme si vous achetez une voiture qui roule à 300 et vous êtes limité à 130.
D'accord.
Mais c'est bien d'avoir du confort de la puissante. Le gros débat aujourd'hui, pour reprendre une expression parisienne, le vrai sujet, c'est comment est-ce que je vais donner du débit à tout le monde. Moi, je parle depuis 25 ans d'énergie digitale, comme de l'eau, du gaz, de l'électricité. Et aujourd'hui, en France, on a encore des zones grises, on a encore des zones blanche, c'est-à-dire pas de signal. Donc la 5G aujourd'hui, c'est de la puissance, mais on en a déjà beaucoup. La révolution, ça va être les fréquences millimétriques, mais le débat sur lequel moi je suis très engagé depuis des années, c'est pouvoir fournir de l'énergie digitale, de la connectivité partout dans le monde, à tout le monde, et notamment en France.
On va également parler avec François Barraud d'un concept que j'ai découvert grâce à lui, le concept des gros doigts. Qu'est-ce que c'est? Restez avec nous, Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec François Barraud, chef d'entreprise, immense connaisseur, référence planétaire du monde des médias, il organise le DigiWorld Summit 2022 qui commence aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. C'est au Musée de l'Homme. On parlait de 5G, quelque chose m'a étonné dans vos propos. Vous dites que la réindustrialisation de la France, je vais le redire, je vais y arriver une fois pour toutes. La réindustrialisation de la France passe par la 5G. Quel rapport? Moi, je pensais que pour réindustrialiser, il fallait planter des usines.
Oui, et pour avoir des usines, il faut qu'elles communiquent. On a assisté à la mondialisation, c'est-à-dire qu'on allait chercher les fonctions les moins chères. On produit en Chine, on a des call centers, des centres d'appel en Inde, des chercheurs en Europe de l'Est. La pandémie est arrivée, la guerre est arrivée, on parle maintenant de souveraineté économique, donc on démondialise. On a besoin de rapatrier les usines en Chine. Et pour qu'elles Et pour qu'elle soit compétitive, c'est-à-dire qu'on produise mieux et moins cher, il faut de la technologie, il faut des communications, et ça passe aussi par la 5G, ce qu'on appelle la 5G d'entreprise.
Mais on ne peut plus construire des sorbetières comme avant sans la 5G.
Alors, la sorbetière est un produit très sophistiqué qui nécessite beaucoup de R&D et de connectivité pour qu'on soit aussi bon que les Chinois en qualité et surtout en prix.
R&D, recherche et développement. On parle de plus en plus d'environnement et c'est bien normal. Est-ce que la 5G n'est pas une hérésie en termes de bilan carbone?
Alors, on l'a vu avec la pandémie, il y a beaucoup d'imposteurs du net qui ont hanté les plateaux et qui faisaient des injonctions absolument anxiogènes d'ailleurs pour le public. Non, la 5G d'abord...
On nous disait même, je me souviens, videz vos spams, videz votre mémoire, videz votre poubelle pour le bien de la planète.
Vous savez, si vous faites un Paris-Nice en avion, vous consommez à titre personnel en CO2 autant que tout votre digital de l'année. Donc, et la troisième plus grosse consommation de CO2, c'est l'entrecôte suisse de 350 grammes. Donc vous voyez, on est très loin. La bonne nouvelle, c'est que la 5G consomme beaucoup moins. Et la 5G, notamment, on l'a vu avec le télétravail, permet aux gens de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Et ça, c'est un énorme progrès.
Et on gagne évidemment du CO2 en ne se déplaçant
et du stress.
Pas. Vous dites que la pandémie, j'ai fait un teaser en ce sens, a permis aux gros doigts d'accéder à la technologie. Qui sont ces gros doigts? D'où vient ce terme?
Alors, c'est un terme peu utilisé, mais c'est un jargon que nous utilisons dans notre métier. Ce sont les gens qui sont peu rompus à la technologie.
Ouais.
Des retraités, des altermondialistes ou des gens qui sont... pas favorable à tout cela. Et du jour au lendemain, on avait tous vécu un traumatisme. On s'est enfermé chez nous, mais il a fallu communiquer, vivre, acheter, se nourrir, etc. Donc beaucoup de gens, 14% de la population, a découvert l'informatique, l'Internet, ce qu'on appelle les gros doigts.
Parce qu'ils y étaient obligés.
Ils ont été obligés ou ils ont découvert. Il y a eu beaucoup de personnes âgées aujourd'hui, à ce moment-là, qui ont découvert l'ordinateur et qui ont pu continuer à communiquer avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et là, vraiment, la technologie a rendu un service énorme, alors qu'on ne pouvait pas le faire 2 ans auparavant.
On va parler des GAFA. Twitter a été racheté par Elon Musk, je ne vous apprends rien. Il a licencié près de la moitié des effectifs. Il y a également eu des licenciements chez Meta. 11 000 personnes licenciées, 13% de ses effectifs. Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. Et d'autres géants de la tech, comme Amazon, qui a licencié près de 10 000 personnes. Est-ce que c'est la fin, selon vous, de l'âge d'or des GAFA, vu vous qui avez une vision à long terme?
Alors, je parle plutôt d'ajustement. Il y a eu des croissances absolument incroyables, que l'on a connu d'ailleurs dans les années 2000 avec les opérateurs télécoms, ça s'est effondré. C'est un ajustement. N'oublions pas que ces sociétés ont des croissances inouïes, une capitalisation boursière hors norme. Donc c'est un ajustement, mais on aura toujours besoin de GAFA.
Mais est-ce qu'elles vont tomber comme MySpace est tombé? Il y a beaucoup de marques qui sont montées, rise and fall, qui montent et qui redescendent. Ou est-ce qu'elles vont rester là? C'est juste un ajustement.
La grosse différence, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, on investissait en bourse avec de l'espoir. Aujourd'hui, les chiffres sont là, ils dégagent du profit et ils sont indispensables au rouage de l'économie à chacun d'entre nous.
Vous avez déjà rencontré Elon Musk?
Oui.
Je pose la question tout en le sachant, sinon je ne me serais pas lancé dans cette question.
J'ai dîné avec lui en 2007 dans la Silicon Valley.
Que pensez-vous de son rachat de Twitter? Parce qu'on est ici une émission média, c'est ça qui nous intéresse. C'est un formidable capitaine d'entreprise quand il crée Tesla, quand il crée SpaceX, mais sur Twitter spécifiquement.
Alors, pendant ce dîner, j'ai eu la chance de dîner avec lui parce qu'on a... On était partenaires dans une fondation. Pendant ce dîner, il m'a expliqué tout ce qu'il voulait faire. La voiture, l'espace, les satellites, etc. Tout le monde l'a pris pour un fou. Et aujourd'hui, il a tout délivré.
Donc, les satellites qui sont au-dessus de l'Ukraine sont les siens, si je ne me trompe pas.
Entre autres, il a inventé cette notion de constellation, qui a d'ailleurs été repris brillamment par Telsat. Donc, il a un plan sur Twitter. Il ne l'a pas dévoilé. Mais moi, j'ai suffisamment confiance dans la personne. Parce que c'est quelqu'un qui dit et qui fait. Et c'est assez rare dans les technologies, ça.
Oui, mais tout dépend de ce qu'il fait. Je veux dire, la question qui se pose, c'est on commence à avoir un peu peur de son côté maître du monde, qui n'en fait qu'à sa tête et qui prend ses décisions seul dans sa chambre à 3h du matin, au lieu que la régulation des médias, comme pour la loi de 1881, se fasse au Parlement, quel que soit le Parlement, quel que soit le pays. Est-ce que ça ne vous inquiète pas?
Non, parce que finalement, on est passé du consommateur au consomme-acteur. C'est un mot qui a été inventé par des amis belges. Et le consommateur décide. Avant, il n'y avait qu'une chaîne de télévision. Maintenant, il y en a des milliers. On choisit. On choisit ce qu'on fait, où on veut, quand on veut. Eh bien, le marché, le consommateur, vous et moi, on va choisir notre média de consommation.
Vous êtes d'accord avec ça ?
On ne peut plus régler le monde, c'est le consommateur qui décide. Le consommateur.
C'est ce qu'on nous disait il y a 20 ans, oui. Mais de fait, il n'y a plus qu'un moteur de recherche qui est Google, il n'y a plus qu'un réseau social pour les journalistes qui est Twitter, et il n'y a plus que telle ou telle application de leader takes all, comme disent les Américains.
Alors ça, c'est une vision Europe de l'Ouest, États-Unis. Vous allez en Chine, vous avez des tas de moteurs de recherche, vous allez en Russie, dans d'autres pays, il y a d'autres moteurs de recherche compétitifs. Dans d'autres pays.
Autre question que vous allez traiter, la cybersécurité. Je n'en aurais pas parlé s'il n'y avait pas cette actualité. L'hôpital de Versailles a demi paralysé par une cyberattaque. Que pensez-vous de notre cybersécurité? Sommes-nous armés, assez armés? Et quand je parle de nous, ce n'est pas nous la France, c'est nous l'Occident.
Alors, il y a eu de très bonnes décisions prises en France. Le cybercampus, le président Macron a annoncé 1,5 milliard, je crois, pour investir là-dedans. Vous savez, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est un marché inflationniste, un peu comme les avocats, hein, qui se parlent entre eux et qui génèrent beaucoup de factures. On est bien protégé. Moi, j'ai opéré les services secrets américains et anglais pendant des années. On avait 700 000 attaques par jour. Donc, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça date d'il y a 15 ou 20 ans. On est écouté. Il y a des logiciels de web sémantique, hein, c'est-à-dire qu'on va écouter. Et quand on va prendre 3 ou 4 mots, eh bien, on va mettre les gens, on va les surveiller. Aujourd'hui, c'est la nouvelle forme de guerre.
Merci beaucoup François Barraud. J'espère que votre site est très très bien protégé. Le Digital Summit 2022, c'est au Musée de l'Homme. C'est pour les Happy Few, c'est évidemment sur invitation. Mais on peut le suivre évidemment. C'est également un événement grand public. Et c'est pour cette raison qu'on voulait vous recevoir aujourd'hui. Merci encore d'avoir été dans Culture Média.
Merci Philippe.
Nous on se retrouve dans un instant.